BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de De quoi je me mêle, votre rendez-vous de la tech du week-end, à la fois sur 01 TV bien sûr, la chaîne, sur les box, mais aussi sur 01net.com, la chaîne YouTube 01 TV, et le dimanche sur BFM Business, à la radio, à la télé, avec cette semaine encore, vous allez le voir, une actu riche. Tout à l'heure je recevrai Philippe Daly, qui est le monsieur Alexa français, le papa d'Alexa en France, hein. C'était lui qui a initié la version française d'Alexa. Alors on parlera de l'évolution de l'assistant vocal d'Amazon, et puis on commentera aussi toutes les annonces qui ont été faites cette semaine. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez réagir à tous les sujets qu'on évoque. La page Facebook qui vous attend aussi. Merci encore une fois d'être là, fidèle au poste, en podcast aussi puisque vous êtes très nombreux à nous écouter en version audio. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et de quoi je me mêle, bien sûr, c'est l'actu commentée à chaud par nos experts, le club de la presse IT. Anthony Morel est là, bonjour Anthony.
Salut François, salut à tous.
Et puis Raphaël Grabli.
Salut François,
salut, salut Anthony. Raphaël. On a une petite pensée pour notre ami Nicolas Lelouch qui est un peu tout sautant.
Il est fragile, hein.
Ça arrive en ce moment.
Il est fragile, ouais. on l'embrasse, mais
l'angine de Lille. La fameuse angine de Lille.
La maladie de Lille, ouais. C'est la fameuse... Hashtag.
C'est sur TikTok.
Angine de Lille, qu'on a tous attrapé plus ou moins.
Exactement, hein, même à Paris. Hein.
C'est peut-être d'ailleurs nous qui avons filé ça à Nicolas, finalement. Bon, plus sérieusement, Anthony, vous le savez, journaliste tech dans le groupe BFM Business, l'émission d'Estelle Denis sur RMC et sur RMC Story, et puis dans De quoi je me mêle aussi, et Raphaël Grabli, bien sûr, BFM Tech, et qu'on retrouve aussi sur BFM TV. Avec pas mal d'actualités, et on va commencer par Amazon. Alors, on en parlera longuement tout à l'heure, hein, Anthony, mais... Ouais. Amazon a fait une keynote très intéressante, ouais, avec toute une panoplie de produits. Alors bon, il y a toujours la frustration de certains produits qui ne sont pas annoncés en France tout de
c'est
suite.
Vrai.
Mais malgré tout, c'est intéressant de voir la stratégie que prend Amazon. Exactement. Dans le monde du hardware.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on pense à Amazon, on pense e-commerce, on pense au cloud, mais leur division hardware est de plus en plus intéressante. Ils font des tentatives, des expérimentations de plus en plus intéressantes. Alors là, ce qui a retenu l'attention de tout le monde, je pense, en tout cas la mienne, c'est le petit robot qui a été annoncé, hein, le petit Astro, qui est assez... J'allais dire, c'est l'évolution façon Pokémon des assistants vocaux. C'est le next step. On a les assistants vocaux aujourd'hui qui sont de plus en plus installés chez nous. Bah, l'étape d'après, c'est de les monter sur une sorte de petit animal de compagnie robotique. Je ne sais pas trop comment le décrire. Il ressemble un peu à Wall-E. Moi, je le décris comme étant le fruit des amours interdites entre un robot aspirateur et une tablette tactile.
C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Moi, c'était un peu le fils caché d'un Roomba et d'un iPad.
C'est un Amazon Echo et un Roomba.
Exactement. Donc,
ne laissez pas traîner vos appareils électroniques sur le tapis, s'il vous plaît. Surtout au coin du feu, c'est trop romantique. Bon, on sait jamais.
Donc après, voilà. Alors la question, c'est à quoi ça va servir. Donc il y a toutes les fonctionnalités de l'assistant vocal. Donc on peut lui poser des questions, etc. Il peut jouer avec les enfants. Il y a tout le côté assistant pour les personnes âgées aussi, où on va pouvoir lancer une visio très facilement en lui demandant. Il y a son écran et donc on va pouvoir discuter avec les petits enfants. Et puis il va nous servir aussi de chien de garde. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il va patrouiller quand on n'est pas à la maison, faire des rondes, et il est capable, avec des caméras, avec de la reconnaissance faciale, de détecter des intrus. Il sait qui habite à la maison, qui n'y habite pas, de vous envoyer des alertes. On peut aussi voir par ses yeux, quand on est par exemple au boulot et qu'on a un doute, est-ce que j'ai oublié d'éteindre le four, par exemple. On peut voir à travers les yeux du robot. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, c'est une évolution possible, on va dire, pour ces assistants vocaux. Après, je vais pas vous mentir, moi ce que j'attends vraiment, quand on parle de robot domestique, c'est le robot majordome, tu vois, celui qu'on présente au CES de Las Vegas, sous forme de prototype, qui peut ramasser la télécommande que tu as laissé traîner et t'apporter un verre de vin quand tu es assis dans le canapé. Je pense qu'on n'en est pas encore complètement là, mais on va dire que c'est un premier pas intéressant.
Pour dire qu'on a tout vu quand même au CES de la Vienne. Hein. Et on commence à être un peu lassé, parce que ça fait un moment qu'on attend notre robot qui nous apporte notre verre. On l'attend toujours.
Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans la pub vidéo d'Amazon, à un moment, il apporte une bière. Derrière, il y a un petit conteneur.
Ouais.
Il
oui.
apporte une bière. Ça, on ne montre pas, par contre, comment il ouvre la porte
c'est
du frigo et comment il prend la bière. Je veux bien voir l'image. Moi,
il parce transporte que... plus qu'il n'apporte.
Et voilà, c'est ça. C'est un peu l'arnaque.
Ouais, c'est un peu l'arnaque.
Mais c'est vrai qu'il a deux petits, vous savez, comme dans les voitures,
comme dans les voitures,
des supports de canettes.
Des supports de canettes, mais bon. voilà, faut quand même les mettre dedans.
Oui, voilà.
Exactement. Donc je sais pas si ça sert à grand chose. Non, après, encore une fois, la différence, c'est entre ce qu'on voit sur les images et vraiment ce que peut faire l'intelligence artificielle au quotidien. Parce que moi, quand je vois aujourd'hui que les assistants vocaux, mais que ce soit d'ailleurs Alexa, Siri, Google Assistant, parfois quand même ont tendance à s'allumer tout seul, à répondre quand on les sollicite pas. Enfin, je veux dire, c'est encore imparfait. Or, le problème, c'est que ces assistants, pour pas énerver l'utilisateur, faut être parfait quasiment 100% du temps, ou en tout cas, pas s'allumer au milieu de la nuit ou répondre à côté. Or là, non seulement il y a une tablette, mais en plus, il se balade. Alors, est-ce que quand on se balade chez soi et qu'on a un robot et qui commence à répondre alors qu'on n'a rien demandé, est-ce que ça peut pas être un peu crispant ? Donc voilà, sincèrement, moi, je serais hyper curieux de le tester, mais je pense que plus on avance dans un robot qui s'immisce dans la vie quotidienne, plus on doit être absolument irréprochable sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, il y a deux sources d'intelligence artificielle. Il y a à la fois forcément l'assistant et il y a à la fois l'intelligence artificielle, le déplacement avec du mapping des zones, des pièces, etc. Donc là, il y a deux défis en un.
Et puis, il y a le côté aussi, alors que tu l'abordais un petit peu, mais respect de la vie privée, qui avait été déjà tout un débat avec les assistants vocaux quand ils ont commencé à s'installer chez nous, et qui va être encore plus le cas avec ça. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un certain nombre. Alors, il y a eu des associations, mais il y a aussi des lanceurs d'alerte, on va dire, chez Amazon, des gens qui ont travaillé ce petit robot, et qui ont déjà dit, en termes de respect de la vie privée, là, c'est un cauchemar. Le machin, pour le coup, on a vraiment un mouchard qui se balade partout. Si par malheur, un hacker parvenait à en prendre le contrôle pour une raison ou pour une autre. Là, en gros, on peut tout voir ce qui se passe chez vous. Bon, ça va poser aussi des questions de ce point de vue-là, petit robot.
Cela dit, avec les caméras aujourd'hui connectées, les hackers, ça fait un moment qu'ils peuvent prendre regarder ce qu'il y a, ce qu'il y a chez vous. C'est vrai, mais c'est d'ailleurs assez étonnant. Hein, cette fronde de certains développeurs d'Amazon qui ont dit attention, ce produit-là.
Oui, c'est bizarre. J'avais jamais vu ça auparavant.
Ouais, étonnant. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité, le porte-parole d'Amazon France. Alors, donc il y a eu Astro qui ne sortira pas en France,
qui va sortir quand même rapidement aux États-Unis.
Oui, voilà.
Alors 1 000 $ et 1 500 ensuite. Mais bon, voilà, c'est un vrai produit. C'est pas un proto comme on voit parfois. C'est un vrai produit qui va sortir, donc
serait déjà fonctionnel.
Qui sera fonctionnel. Ouais. Donc on va avoir des tests et des reviews aux États-Unis. Donc clairement, ça va arriver.
Mais c'est excitant. Enfin, moi perso, je trouve ça assez excitant.
Oui, moi aussi.
Je suis un peu dubitatif, mais par contre, si on me dit que tu testes chez toi. Je le teste volontiers pour voir comment ça fonctionne.
Ils en font un par étage aussi, pour ceux qui ont une maison par étage, parce qu'ils montent encore les escaliers.
Voilà.
Peut-être la V2, on verra.
Avec Boston Dynamics.
Ah ouais, c'est ça, faut faire un mix avec le Atlas.
Avec le Atlas, ça va commencer à vraiment, vraiment faire flipper, je pense.
C'est clair.
Il coûte cher aussi. Il y a eu d'autres annonces, alors là, qui vont sortir en France, notamment un Echo Show 15. Hein, donc, vous avez vu ce grand écran, en fait, cette grande tablette tactile qu'on va pouvoir poser, par exemple, sur un mur.
Presque une télé. Hein.
Une télé avec reconnaissance faciale, etc., etc. Il y a eu aussi des extendeurs de Wi-Fi, enfin, toute une...
Le Glow pour les enfants aussi. Là,
oui, très sympa ça, le Glow.
Un projecteur, je trouve ça très sympa.
Très innovant ce produit.
Très innovant. Une sorte de projecteur en fait, c'est ça, qui va projeter au sol une image. Alors là encore, l'usage qu'ils mettent en avant, c'est le côté on peut discuter avec les grands-parents, etc. Ou diffuser une saison, une série, série ou
si vous êtes avec nous en vidéo, on est en train de voir le système.
C'est vraiment, l'objet donne envie là aussi.
Ouais, projection 3D tactile avec un retour vidéo de la personne qui peut être n'importe où. Pour de la visio, c'est pas mal, ça peut être aussi un outil éducatif assez intéressant, je trouve.
En fait, moi, ce que j'aime bien avec Amazon, c'est qu'ils ont tellement pas de produits. Alors, s'il y a les Echo, les assistants vocaux, mais c'est pas quand même une entreprise de hardware. Mais c'est une entreprise qui veut faire du hardware et qui a un argent de dingue. Ce qui fait qu'ils testent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est quand même très sympa.
Ouais,
parce que du coup, il n'y a pas d'autres grosses boîtes comme
bien sûr,
qui va oser lancer des produits. Ils se plantent souvent. Par contre, après, ce qui marche, là, pour le coup, ça cartonne. En tant qu'amateur de la tech, on ne peut pas reprocher à une boîte de faire des tentatives. D'autant plus quand elle a des moyens comme ceux d'Amazon. Moi, je trouve ça passionnant qu'ils tentent plein de choses.
Bien sûr.
Et après, il y aura des produits qui ne vont pas marcher. On va se moquer un peu de certains produits, mais ce n'est pas grave. Parce que derrière, il y a des choses qui vont marcher.
Petit drone caméra, là, sympa aussi.
Ce petit drone.
Alors là aussi, en matière de vie privée, c'est la même.
C'est le cauchemar. C'est vraiment le truc.
Ouais, mais après, il y a deux. En fait, c'est vrai qu'on est toujours partagé, un peu dubitatif. C'est comme le Astro. Moi, je trouve que technologiquement, c'est incroyable.
Fascinant.
Incroyable ce petit truc là qui retransmet les vidéos en direct et qui va se balader avec évidemment des capteurs pour éviter de se prendre un mur, etc. Puis de l'autre côté, c'est vrai quoi, la vie privée là. Mais par exemple, si on est, il y a personne à la maison, qu'on le met en route pour aller vérifier de temps en temps si tout va bien, ou si vous, par exemple vous avez un petit jardin pour voir si toutes vos plantes vont bien, etc. Enfin bon, ça peut avoir du sens.
Ouais, bien oui, bien sûr. Puis c'est des produits qu'on accepte d'avoir chez soi volontairement aussi. Ça reste dans le cadre privé.
Évidemment.
Alors
on va pas vous mettre un fusil sur la tempe pour que vous installiez ce produit-là.
Alors il y a les micros, il y a le problème des micros, mais de toute façon le problème des micros c'est nos smartphones. Hein, on a un micro sur nos smartphones.
À quel moment il se déclenche
Non, mais parce qu'après, si le petit robot Astro il arrive devant soi sans explication, on le voit quand même arriver. Donc le vrai problème c'est les micros, mais c'est le même problème que sur un smartphone.
On reviendra sur toutes ces annonces tout à l'heure, plus en détail. Toujours du côté d'Amazon, décidément, alors l'actualité est riche, hein, c'est le Wall Street Journal qui dévoile à quoi ressembleront, Anthony, les futurs grands magasins d'Amazon.
C'est ça.
Parce qu'Amazon, évidemment, est présent sur le web, mais vous le savez, ils ont la volonté d'investir énormément d'argent sur des magasins physiques.
C'est ça. Ils ont dématérialisé le commerce, ils sont en train de le rematérialiser d'une certaine manière, et là encore plein d'expérimentations. Et la dernière en date, alors pour l'instant ce sont juste des informations de presse, mais en général le Wall Street Journal est bien informé, c'est qu'ils voudraient lancer, ouvrir l'équivalent de nos grands magasins. Les Américains disent des department stores, mais en gros c'est l'équivalent de nos Galeries Lafayette, et Amazon veut en faire une sorte de laboratoire technologique, là encore, c'est-à-dire c'est pas les grands magasins tels qu'on les connaît, ça va être des laboratoires, des grands magasins mais à la sauce high-tech. Donc ils nous donnent quelques détails de la façon dont Amazon par exemple voudrait vendre des vêtements. Donc on pourrait se balader dans les rayons, imagine Amazon, scanner les articles qui nous plaisent grâce à des QR codes, qui est une techno qui a le vent en poupe en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Et donc vous arrivez devant la cabine d'essayage et comme par magie, tous les vêtements que vous avez scannés vous attendent, vous pouvez les essayer. Il y a un écran tactile géant à l'intérieur de la cabine. Si vous avez oublié de prendre un article ou si vous avez pris un pantalon trop grand ou trop petit, vous appuyez sur un bouton, on vous apporte la bonne taille. On va vous faire
ce sera peut-être Astro qui vous l'apportera.
Ce sera
après.
Astro. Alors il y aura des robots, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais apparemment il y aura aussi des robots et de l'automatisation dans ces magasins. Et puis on vous fera aussi via ces écrans tactiles des recommandations, comme quand vous êtes sur l'appli ou le site Amazon, tu as pris tel pantalon, peut-être que cette ceinture va t'intéresser. Donc voilà, encore une expérimentation parmi d'autres, hein. Ils avaient déjà leur supermarché Amazon Go, les petites épiceries dont ils veulent ouvrir plusieurs milliers d'unités dans les années qui viennent, où tout est en mode automatisé, où il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de file d'attente, on entre, on prend ce qu'on veut et on sort. Ils ont racheté Whole Foods aussi, qui est une grande chaîne de distribution aux États-Unis. Ils ont aussi relancé certaines librairies aux États-Unis. C'est étonnant quoi, eux qui ont tué plus ou moins les librairies.
Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en visiter des librairies Amazon aux États-Unis.
Non, j'ai pas
vu. Mais c'est assez intéressant parce que quand on entre, on en a vu 2-3. Je sais pas si tu en avais vu aussi.
Non, j'ai jamais eu l'occasion.
Alors, j'ai eu la chance, j'en ai visité 2-3 à New York, aussi en Californie. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive sur Amazon, mais en physique, c'est-à-dire que quand on arrive, le présentoir principal, c'est les livres les mieux notés. En fait, tout est une réplique physique de la navigation sur le site Amazon, donc c'est assez intéressant. Après, ça reste une librairie, tout ce qui est le plus classique, si on regarde vraiment le magasin en soi, ça reste une librairie assez classique, avec des salariés. Parce que ce que j'ai quand même l'impression qu'Amazon essaie de faire, alors déjà avec Amazon Go, mais aussi dans le projet dont tu parles, c'est quand même un peu de se libérer, entre guillemets, des salariés, d'avoir le moins de salariés possible avec l'automatisation.
Mais c'est vrai que pour vendre des livres, on est obligé d'avoir des humains, quoi.
Oui, et des vêtements, autant sur les bouquins, je peux comprendre. Bon, sur les produits alimentaires, là, clairement, il n'y a pas besoin d'humain. De toute façon, quand on va faire les magasins, le seul point où il y a besoin d'un humain, et encore, de toute façon, de moins en moins, c'est pour l'alimentaire. Mais aujourd'hui, on va dans un Carrefour City ou dans un Franprix. En général, on se retrouve face à une caisse automatique.
Mais sur les vêtements, moi, je veux la vendeuse qui me dise, mais ça vous va hyper bien.
Ça, aucun mais c'est Astro. Astro va venir et va te dire, Anthony,
ça fait moins quand même, tu vois.
Voilà, mais pour les vêtements, moi, je suis d'accord. Je suis plus dubitatif sur le fait de d'avoir beaucoup moins de salariés. C'est quand même un secteur où il faut quand même du conseil.
Ouais, clairement. Non, mais c'est intéressant de voir en tout cas le nombre d'expérimentations qui sont en train de se lancer. À Londres, ils ont aussi lancé, alors pour leurs salariés pour l'instant, mais ça pourrait être étendu, un salon de coiffure. Il y a un salon de coiffure Amazon qui est avec tout un tas de technologies là encore. Tous les produits cosmétiques, tu pointes du doigt, hop, ça s'ajoute sur ton compte sur Amazon, etc. Enfin, voilà.
C'est un coiffeur ou une coiffeuse qui vous coupe les cheveux quand même. Hein.
C'est pas un robot. C'est un humain, mais peut-être.
J'ai peur du résultat.
Astro, je lui confie pas. Moi, j'ai pas grand chose à dire.
S'il a un capteur bouché qui commence à vous attaquer la joue, c'est pas terrible hein, quand même. Donc, je serais pas le premier à tester. Hein.
Non, mais encore une fois,
la coupe Amazon Prime, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement.
Mais encore une fois, tout ça,
tout c'est l'expérimentation. Tout doit
disparaître. C'est ce qu'on dit sur les produits. Ils font pareil sur les services. C'est l'expérimentation à tout va, ouais. En sachant qu'ils vont un peu dans tous les sens. Ouais. Mais c'est pas grave, ils tentent. Et au moins, ça permet de voir à quoi ça ressemble.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils inspirent les enseignes concurrentes. J'ai cru comprendre que Carrefour allait ouvrir à Paris un magasin totalement automatique.
Ouais, aussi. Ouais.
Un peu comme les Amazon Go dont Anthony parlait. Donc, on voit aussi que ça stimule aussi la concurrence, sûr. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on veut un magasin qui soit ouvert 24 heures sur 24, bien achalandé. On n'a pas envie d'attendre un quart d'heure pour faire la queue parfois, parce que même avec ces caisses automatiques, enfin je sais pas moi, mais ça m'est déjà arrivé, entre les deux qui sont en panne, les deux autres qui restent avec la personne qui ne sait pas trop comment ça fonctionne et tout, on peut perdre du temps.
Puis
si on arrive à avoir
compliqué.
Un système fluide et qui fonctionne, soit avec reconnaissance faciale, soit avec le smartphone et tout, ça change la vie quand même, mine de rien. À suivre donc tout ça après Amazon, on va parler de Google quand même. Hein. Alors, Google, il y a encore deux actus. Une qui va être sérieuse, on va l'évoquer dans un instant, mais une qui est un peu drôle, c'est quand en fait la technologie rencontre la nature, la vraie. Et en l'occurrence un corbeau. Vous avez sans doute vu ces images incroyables qui ont circulé sur tous les réseaux sociaux. C'est un corbeau qui s'attaque en fait à un drone livreur de chez Google.
C'est ça, en Australie. Hein, donc c'est les oiseaux d'Hitchcock, mais version high-tech. Quoi. C'est vraiment ça.
C'est ça.
Les images sont folles. Alors elles sont devenues virales et c'est pas étonnant parce que c'est vrai que c'est quand même très 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 étonnant. C'est-à-dire que c'est très impressionnant. Je veux dire les images. C'est-à-dire qu'on voit ce drone de livraison donc qui sont utilisés depuis un moment en Australie par Wing, qui est la filiale de livraison de Google. Drone assez imposant d'ailleurs. Et ce corbeau qui lui fonce dessus. Très courageusement,
j'allais dire que le drone est
beaucoup plus gros que lui, il y a des hélices, ça fait beaucoup de bruit, mais
le
corbeau,
il est très téméraire.
Il est très téméraire, il va, il revient. Alors apparemment, ce que disent les experts, c'est que c'est parce que c'est la saison de la nidification pour les corbeaux, et donc en gros, tout ce qui empiète sur leur territoire est vu comme un ennemi, et donc le corbeau fonce dessus. Il y a aussi probablement le fait que ces drones transportent des victuailles qui sont assez appétissantes, puisque les Australiens se font livrer, alors ça peut être le café du matin, ça peut être le goûter des enfants, ça peut être des poulets rôtis. Ça a explosé depuis le début de la crise sanitaire, parce qu'avec les confinements, évidemment, on se fait beaucoup plus livrer de la nourriture.
Surtout sur des grands territoires comme l'Australie, là, vous voyez, bon, c'est des résidences, enfin, c'est des lieux résidentiels. Vous n'avez pas d'immeuble, enfin, voilà,
absolument.
Vous n'allez pas avoir votre drone qui va vous livrer un truc si vous êtes au 12e étage de votre immeuble.
D'ailleurs, les expérimentations de Wing, ça se fait à Canberra, dans une autre ville australienne dont j'ai oublié le nom.
Ouais. Mais en revanche, je trouve ça hyper intéressant.
Oui, parce que ça fonctionne. En fait,
ça marche.
Bien sûr que ça marche, parce que le service, il a été lancé maintenant il y a peut-être 2-3 ans à Canberra. Et bien sûr que ça fonctionne très très bien. On voit bien qu'on peut livrer aussi. Alors, il y a des livraisons de café. Se faire livrer son café par drone, c'est...
Ouais, c'est ce que tu disais sur Twitter, se faire livrer son expresso.
Son expresso, moi, je trouve un peu étonnant. Mais par contre, faire livrer son repas...
Tu dois aller froid quand même. Enfin, tu vois, ça prend combien de temps.
Voilà, faut pas que ça arrive froid. Et puis bon, ça faut que ce soit bien fermé quand même, parce que ça peut, surtout après le corbeau, quoi.
Mais c'est vrai, c'est le corbeau.
Mais non, par contre, la livraison de repas, et puis surtout, bon, il y a la livraison aussi de médicaments, etc.
Bien sûr.
Ça correspond à une certaine catégorie de villes, d'endroits où c'est parfaitement compatible. Mais c'est vrai que c'est une des nombreuses limites, une des nombreuses anecdotes qui montrent qu'encadrer le drone, l'utilisation des drones, c'est très compliqué. Il y a les risques quand c'est au-dessus des villes, mais on voit bien aussi que quand il y a des oiseaux qui s'en prennent aux drones, parce que là, effectivement, on parle du danger pour les corbeaux. Alors, apparemment, aucun corbeau n'a été blessé.
Non, alors, je viens d'insister là-dessus, parce qu'apparemment, les drones sont équipés. Voilà. Alors, je sais pas, les hélices doivent être entourées de dispositifs qui font que les oiseaux ne se blessent pas.
Voilà, mais moi, ce qui est quand même la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas risqué aussi que pour ceux qui se trouvent en dessous, est-ce que le drone ne risque pas quand même de tomber à un moment face à un obstacle comme ça et à faire des blessés? Et ça, c'est évidemment le cauchemar de tout.
Et puis, on a parlé des corbeaux, mais peut-être que les mouettes pourraient s'attaquer aussi.
Alors, je
suis pas un spécialiste.
Non,
hein.
Mais
il faudrait qu'on appelle Alain Bougrain Dubourg pour peut-être nous débrief sur tout ça.
Alors, j'ai peut-être un petit éclairage là-dessus. Tu sais que dans certains pays, alors il y a des expérimentations qui avaient été menées notamment aux Pays-Bas qui se sont arrêtées où on utilisait des aigles dressés pour attaquer les drones, mais les drones intrus, tu sais, les drones qui s'approchent un peu trop d'une centrale nucléaire ou d'un aéroport. Et donc, ils avaient une brigade spéciale de la police, de fauconniers, quoi, qui dressaient des oiseaux de proie, et les oiseaux, on leur apprenait à attaquer les drones. Alors, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les aigles étaient quand même un peu imprévisibles, et surtout, ça coûtait très très cher en drones, parce que, pour le coup, ils massacraient les drones, quoi. Un aigle, c'est pas un corbeau, quoi.
C'est un gros machin.
C'est un gros oiseau, et les drones se faisaient exploser, et forcément, il y a un moment, ça représente quand même un budget, parce qu'à chaque fois qu'ils attrapaient un drone, on leur donnait un morceau de viande pour les récompenser, pour leur apprendre, etc.
Bien sûr.
C'est fou, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas, en tout cas, on n'a pas vu la fin de ces interactions un petit peu rugueuses entre des drones et des volatiles, mais bon, là, voilà, c'est nature 1, technologie 0 sur ce point-là.
Exactement, mais en tout cas, le concept est assez intéressant à voir si Google prévoit de sortir ce type de service, par exemple en France, dans régions...
Tu sais que la Poste a deux lignes de drones de livraison expérimentales dans le Var et en Isère. Et effectivement, en fait, on est un peu revenu du fantasme du début où on parlait des drones de livraison. On s'imaginait dans les centres-villes se faire...
Des pizzas, on voyait beaucoup de livraisons de pizzas, etc.
Ça peut pas fonctionner en centre-ville, très clairement. Tu le disais, Raphaël, les drones, ils vont pas toquer aux fenêtres, ça a pas de sens. Mais en revanche, dans des zones montagneuses, là où il y a du terrain accidenté, on se rend compte qu'effectivement, ça peut faire gagner du temps. Et pour tout ce qui est livraison... Alors ça peut être des médicaments,
les maisons individuelles.
Des maisons individuelles.
Là, ça a du sens. Exactement. En général, les maisons individuelles ont toujours un petit jardin, etc.
Pour moi, c'est un service qui devrait couvrir un peu les mêmes zones que Starlink, par exemple. On parle d'Internet. C'est le pendant dans les villes. On a la chance, on a de la fibre partout, etc.
Après, la zone de distance, la zone de couverture de ces drones-là.
Ouais, alors je sais que pour la Poste, c'est de l'ordre c'est 3 km la zone de livraison. Alors je sais pas du tout, pour Wing, je pourrais pas me prononcer. Mais effectivement, c'est vraiment optimisé pour les campagnes, ou alors dans les villes, j'allais dire, c'est circulation sur des couloirs aériens très spécifiques, par exemple entre deux hôpitaux pour livrer des banques de sang ou pour livrer des organes en urgence.
C'est ce que tu
disais. Ça peut être très intéressant.
Ça a vraiment du sens. Google, la vie n'est pas facile pour Google. Vous vous rendez compte, ils sont attaqués par des corbeaux.
Ils ont cloué au sol une partie de la flotte de drones.
Ils ont suspendu le service
dans une partie de Canberra. C'est dans la banlieue de Canberra.
Il paraît qu'ils veulent reprogrammer les corbeaux. Est-ce qu'ils vont y arriver?
Maintenant, c'est les corbeaux qui viennent livrer les sushis.
Voilà, évidemment. C'est la nouvelle version d'Android. On reste dans le monde de Google avec une présentation qui a été faite hier. Anthony, tu voulais nous la commenter sur le search de Google, qui est quand même, on va dire, le fond de commerce de Google.
C'est le cœur de leur business.
C'est le moteur de recherche, ça a toujours été ça. Et visiblement, ils accélèrent sur des services de plus en plus pertinents et puissants.
Ouais, ils veulent muscler en fait leur moteur de recherche. On va oublier ou en tout cas passer à l'étape d'après la bonne vieille barre de recherche telle qu'on la connaît. Alors c'est pas la première fois qu'ils en parlent, mais hier, donc c'était la grande conférence Search On, qui est leur conférence autour du search, et ils ont beaucoup insisté sur le nouveau mot-clé qui est Google. Alors, ils appellent ça le MUM, M-U-M, donc c'est Multitask Unified Model. Non. C'est un peu plus barbare en termes de terminologie. On pourrait traduire ça par recherche multimodale, et en gros, l'idée, c'est que plutôt que d'avoir une recherche textuelle comme on le fait aujourd'hui, on va combiner du texte, de l'image et de la vidéo. Donc en gros, le principe, c'est Raphaël, tu portes un t-shirt qui me plaît beaucoup, je vais le prendre en photo, on va me proposer des motifs équivalents sur le moteur de recherche. Ça existait déjà avec Lens, mais là où on va aller plus loin, c'est qu'on va pouvoir combiner ça avec une recherche texte, et je vais dire, oui mais moi ce motif là je le veux sur des chaussettes et non pas sur un t-shirt, et là le moteur va comprendre et va me faire cette recherche là. Donc en gros, tout ce qui est un peu compliqué à appréhender,
oui, rajouter un peu de sémantique dans...
Coupler en fait vraiment l'image et le mot. Un autre exemple, c'est, je prends en photo mon vélo dont le pneu vient de crever, et tout de suite on va m'envoyer vers un tuto YouTube comment réparer un pneu de vélo crevé. Voilà. Donc c'est toutes ces expérimentations là que Google est en train de mettre en place. Alors même, je dis expérimentation, mais ça va être lancé en anglais dans un premier temps d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, donc ça va arriver assez vite. Et Google imagine aussi que toutes les images vont devenir, alors ce qu'ils disent, ils appellent ça searchable, parce que moi j'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais en gros, c'est-à-dire que sur une image, s'il y a des éléments qui vous plaisent, je sais pas, un abat-jour, une télé ou un canapé, vous cliquez dessus et on va vous trouver exactement où l'acheter, dans quel magasin il est en stock, etc. Donc voilà, la prochaine dimension de la recherche chez Google, ça va être ça. Et effectivement, tu le disais, c'est hyper important. Enfin, c'est un enjeu financier qui est absolument massif, puisque pour eux, ça représente encore aujourd'hui plus de la moitié des revenus totaux d'Alphabet, donc la maison mère de Google.
Et surtout, là, on parle de recherche qui a une finalité commerciale de façon assez régulière, parce que quand tu me dis je vais rechercher un t-shirt, un abat-jour, etc.,
bien sûr,
c'est pas je recherche un truc sur Wikipédia. Là, c'est derrière un lien d'affiliation, c'est derrière un lien sponsorisé. Donc financièrement, ça va aussi leur permettre de se détacher un peu de la publicité classique pour faire de l'affiliation, ce qu'ils font déjà avec Lens. Mais bon, de toute façon, encore un peu anecdotique, on va pas se mentir, je pense que tout le monde n'utilise pas Lens au quotidien, mais clairement, c'est ce domaine-là qu'ils veulent développer, et économiquement pour eux, c'est extrêmement intéressant, parce que là, une photo qui est recherchable, derrière, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire un peu acheter tout ce qu'il y a sur la photo, potentiellement. Ouais. Après, même s'il y a d'autres types de recherches. Donc, je pense que c'est là aussi où, commercialement, c'est un intérêt monumental pour Google.
Et oui, vous savez, j'ai le plaisir de présenter Tech & Co tous les soirs sur BFM Business entre 20h et 22h. Et cette semaine, j'ai reçu une start-up française qui propose, puisque c'est la Fashion Week là, en ce moment. Donc, on a voulu un petit peu creuser et voir quels étaient des exemples de fashion tech intéressants. Et notamment une start-up qui analyse en fait des images avec des personnes qui sont habillées. Et comme tu le disais, en fait, les algos arrivent à détecter le type d'habit qu'il y a. Par exemple, vous êtes en train de regarder une série Netflix et au bout d'un moment, vous voyez, vous faites un arrêt sur image et vous voyez, je sais pas moi, des habits qui vous plaisent, des vêtements qui vous plaisent. Et bien là, l'algo va analyser et va, dans sa base de données, essayer de matcher, de retrouver ces habits-là, s'ils ont été référencés. Et c'est assez intéressant. Et là encore, c'est des algos, c'est de l'IA, c'est de la big data, mais on a en France un certain savoir-faire aussi.
Ça s'appelle comment la boîte
sur ce sujet.
Ça m'intéresse moi ça.
Bah, tu vois,
tu
j'étais en train de réfléchir. Je te donnerai ça tout à l'heure dans nos archives.
Ouais.
C'est plutôt cool. On a parlé d'Amazon, on a parlé de Google, Apple, non ?
Le trio
maintenant, le trio magique.
Il manque Microsoft et on est...
Microsoft, on n'a pas grand chose. On en a parlé la semaine dernière.
Ouais, pas cette
semaine. Oui, et cette fois-ci, c'est Apple et notamment Tim Cook qui n'est pas très content, les amis. Parce qu'il en a marre de se faire siphonner tous les projets de produits s'apprêtent à sortir. On le voit, on a des exemples réguliers de stars maintenant de la tech qui ont des informations avant tout le monde. Tim Cook, ça commence à l'énerver.
Ouais, c'est
j'ai l'impression.
Ah bah là, il veut débusquer les traîtres, là. C'est vraiment ça. Il fait la chasse à ce qu'on appelle les leakers, donc c'est ceux qui font fuiter les informations dans la presse. Et en fait, il a envoyé un mémo, donc une note interne aux salariés d'Apple qui, ironiquement, a fuité elle-même dans la presse.
Oui.
Bien qu'il y a un problème.
C'est pas la première fois. Il y a 3-4 ans, Apple qui avait tenu une réunion spéciale sur les leaks et la réunion avait elle-même fuité.
C'est ça qui est extraordinaire.
Mais c'est drôle cette histoire.
Et donc pour dire, alors on sait que les leakers, c'est un très petit nombre de gens chez Apple, ils n'ont pas leur place dans leur entreprise, je vous cite un peu de tête, mais en gros l'idée c'est si on vous trouve, vous êtes viré et vous allez vous prendre un petit procès en prime, c'est un peu ça l'idée. Alors on peut comprendre parce que c'est vrai que les leaks se sont multipliés, enfin je pense qu'on peut tous en témoigner ici, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a une keynote Apple, il y a quand même la grande majorité des éléments qui sont connus avant, voilà, dont on connaît, on sait beaucoup de choses en tout cas avant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années à l'époque de Steve Jobs, bon, alors c'était une autre école, un autre management, il y a la légende qui veut, je ne sais jamais si c'était vrai, tu sais que Steve Jobs faisait travailler certaines équipes sur des faux produits
et qui
donnait
pour
des prises d'informations bien différentes sûr. À chacun pour essayer de voir ensuite où ça sortait dans la presse et donc il savait d'où venaient les fuites, etc. Je pense que c'est pas trop le délire dans lequel et Tim Cook. Et c'est pas du tout pour jeter la pierre d'ailleurs à Apple aujourd'hui. Je pense que le combat est beaucoup plus difficile à mener qu'aujourd'hui qu'à l'époque de Steve Jobs parce que l'entreprise est tout simplement beaucoup plus grande, que la supply chain est absolument massive.
Bien sûr. Mais quand vous
c'est
voyez
très,
que.
Très compliqué à surveiller quoi.
Je sais pas si tu as suivi, si vous avez suivi tous les deux, mais il semblerait que le cycle de création d'un produit chez Apple, c'est 3 ans. Donc ça veut dire que finalement, vous avez une fenêtre de 3 ans où il y a des informations qui circulent. Et
oui,
il y a des centaines de personnes qui sont au courant de ce truc-là.
Il parlait notamment de la photo. Il me semble, il disait on commence
tout
à bosser,
fait.
Mais à mon avis pas que sur la photo.
Et le module photo de l'iPhone 13 Pro, avec ses gros modules, ont été imaginé en 2018, trois ans avant.
C'est fou.
Parce qu'il faut cette inertie de trois ans. À partir
moi, j'ai
du
déjà
moment
toutes les infos sur l'iPhone 16. Hein. Je ne sais pas si je peux en dire beaucoup plus.
Mais ceci dit, moi, je suis assez étonné quand même parce que je trouve que cette année, il n'y avait pas grand-chose qui avait fuité, hein, finalement.
Enfin, cela dit, il n'y avait pas grand-chose à raconter sur le nouvel iPhone aussi.
Non, je parle de la conférence en elle-même.
Oui,
On avait parlé des AirPods, on avait parlé d'autres produits. Finalement, on a eu de l'iPad dont on avait...
Oui, l'iPad mini a été bien caché.
On ne l'a pas du tout vu venir. Même les iPhones. Alors oui, c'est vrai, il y a eu l'histoire du mode portrait vidéo qui a donné finalement le cinématique. Enfin, le fait que Apple bosse la photo, la vidéo, oui, ça a fuité. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt une année où il y a eu assez peu de fuites. Et comme tu dis, Anthony, moi, je trouve que par rapport au nombre de gens qui bossent sur le sujet, moi je trouve que c'est quand même miraculeux d'avoir aussi peu d'infos et surtout quand même en matière de leak, Apple est quand même la boîte qui arrive le mieux à se protéger. Je veux dire Samsung, quand on voit les tweets d'Evan Blass, etc. Les fabricants Android, franchement, alors Google, j'en parle même pas, on a les pixels déjà un an à l'avance.
Et la différence, c'est qu'Apple à une époque nous a habitués à la surprise et au secret, alors que les autres, c'était pas très grave.
Samsung, à la limite, je pense qu'il travaille même ces informations en avance.
Après, Apple aussi, on va pas se mentir. Hein, Apple, quand ils font
fuiter, ça fait partie de leur force.
Voilà, ils font fuiter ce dont ils ont besoin aussi. Il y a l'histoire qui était assez incroyable du premier iPad où il y avait eu des rumeurs sur le prix où je crois que c'était Bloomberg qui annonçait ça va coûter 1 000 €. Puis du coup, finalement, Apple avait annoncé 500 € en se disant super, c'est pas cher finalement, c'est 500 €.
Il y a toute une préparation psychologique.
Il y a toute une préparation psychologique. Ouais, ça fait partie de la stratégie. Mais je trouve qu'Apple, paradoxalement, moi je les trouve plutôt préservés en ce moment.
Mais en tout cas, ils font.
Sur l'Apple Watch aussi, par exemple, il n'y a pas eu grand chose.
Ils font super
gaffe.
Ils font super gaffe à ça. Et ils ont même une cellule, enfin un département anti-fuite. C'est pas très joli en français, mais département anti-fuite.
C'est la cellule Pampers.
Ça fait un peu Pampers. Département anti-fuite chez Pampers, ça se comprendrait. Avec des anciens du FBI, de la NSA, des anciens des services secrets américains, etc. Donc c'est intéressant. Enfin, j'aimerais bien être une petite souris pour voir comment ça se passe en arrière. Ça va être complètement fou à observer, quoi.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on parle, justement de Tim Cook qui essaie de combattre les leakers. Pas plus tard qu'avant-hier, on sait quasi tout sur l'iPhone 14. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a encore tous les Ming-Chu Kuo, enfin tous ces gens-là qui ont des informations qui s'avèrent la plupart du temps.
Mais lui, c'est un analyste. C'est quelqu'un qui passe sa vie.
Bien sûr, mais il a
des infos.
Et là, regardez, amusez-vous à le taper à iPhone 14, vous allez voir, vous avez déjà des images qui ressembleraient à l'iPhone 4. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. L'encoche de Face ID disparaîtrait au profit d'un petit poinçon. Enfin, il y a plein de trucs.
Mais souvent,
dans un an, la sortie du prochain iPhone.
Il y a beaucoup d'infos qui viennent aussi des sous-traitants asiatiques. Alors, c'est la presse américaine qui raconte, certains ont enquêté, sont même allés à la sortie des usines Foxconn, où apparemment, il y a des gens qui viennent proposer de très fortes sommes aux salariés de l'usine pour faire sortir des composants ou des prototypes, parce que derrière, les enjeux financiers sont énormes. Ça peut être des accessoiristes qui veulent avoir le format exact pour être les premiers à sortir la coque qui va bien, ou des collectionneurs simplement. Même des hackers d'ailleurs, qui peuvent vouloir les prototypes avec toutes les fonctions de sécurité qui ne sont pas forcément complètement
terminées. Quand vous vous rendez compte que Apple appuie sur le bouton telle date et qu'il y a des millions d'iPhones qui sont disponibles,
ça fait des mois que ces iPhones sont fabriqués, stockés
quelque part, et forcément c'est quasi impossible de réguler des fuites, ça c'est clair. L'actu cette semaine, c'est Facebook n'en finit pas d'être empêtré dans des histoires incroyables. La dernière en date, c'était ce projet d'Instagram Kids, un Instagram. Parce qu'on sait, il y a plein d'enfants ou de jeunes adultes aujourd'hui qui sont sur Instagram, qui grugent tout simplement leur date de naissance et qui ont des comptes. Alors Instagram et Facebook voulaient créer un environnement qui soit un petit peu plus protégé pour eux avec un Instagram Kids et leur dire « Ok, vous êtes enfant, vous pouvez avoir votre réseau social, votre espace. » Et bien là, Instagram Kids, ce projet est pour l'instant suspendu. Alors peut-être même annulé, on ne sait pas, mais en tout cas suspendu. Qui en parle ? Raphaël ?
Juste très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que ça vient en même temps que des révélations du Wall Street Journal qui montre que Facebook est un problème, c'est que ses utilisateurs et utilisatrices sont vieux, ils sont trop âgés, c'est-à-dire qu'ils ont 40-50 ans, ce qui pour un réseau social est problématique. Et le grand problème de Facebook, c'est d'arriver à séduire des préadolescents pour les préparer à aller, et des enfants d'ailleurs, pour les préparer à aller sur Facebook, sur Instagram. Alors Facebook, ils ont compris que c'était mort, que de toute façon un Facebook Kid, ça ne servira à rien parce que Facebook n'intéresse pas les enfants. Par contre, Instagram, oui. Et donc, c'est pour ça que ce projet d'Instagram Kids, alors officiellement, sans pub ciblée, protégée, etc., pourquoi pas ? Le problème, c'est que ce n'est pas une volonté de protéger les enfants. Le problème, et ça, on l'a vu dans les documents qui ont été révélés par le Wall Street Journal,
c'est une stratégie.
C'est de préparer, d'habituer des enfants de moins de 10 ans à être dans l'écosystème Instagram pour que le jour où ils aient 13 ans, officiellement en tout cas, ils basculent sur Instagram.
Donc et c'est... après Facebook.
Et après, oui, alors Facebook, je pense qu'ils espèrent même plus. Ouais, mais au moins qu'ils restent ensuite dans le giron d'Instagram. Voilà. Ouais. Et donc c'est vrai qu'effectivement, derrière ce discours de protéger les enfants, évidemment, il y a quelque chose de bien plus mercantile qui est habituer les enfants à Instagram.
Et pas se faire siphonner par TikTok, qui a dépassé le milliard d'utilisateurs là, cette semaine. Enfin, je pense que les deux sont liés aussi. Quoi. L'idée, c'est exactement ce que tu disais, Raphaël. C'est vraiment fidéliser dès le début les enfants à Instagram. Mais je pense que cette histoire embête beaucoup Facebook. Ils sont quand même empêtrés là, avec les révélations du Wall Street Journal qui s'enchaînent semaine après semaine.
Encore cette dernière histoire qu'on évoquait il y a une ou deux semaines, cette étude qui montre le mal-être des adolescentes.
Exactement. Bah, c'est
adolescentes
aussi,
américaines
hein.
Mais sur Instagram.
C'est lié à ça. Alors, c'est incroyable. Donc le Wall Street Journal publie des extraits d'études internes à Facebook
qui ont été commandés par Facebook.
Qui ont été commandés par Facebook. Ce qu'a fait ensuite Facebook, c'est là, hier, ils en ont diffusé deux.
C'est ça.
Sauf que manque de peau, le Wall Street Journal en avait, il me semble, six. Et donc ils ont rediffusé au Wall Street Journal les six. Ouais. Or, évidemment, dans les deux que monte Facebook, alors avec plein d'arguments à côté pour dire non, mais l'étude ne dit pas vraiment ça, etc. Évidemment, le plus intéressant se trouve dans les études que Facebook n'a pas publiées et notamment qui montrent que, clairement, Instagram ajoute des complexes, notamment aux jeunes femmes, et notamment en France. La France, c'est dans les principaux pays qui sont concernés.
Ah,
en fait, c'est les pays occidentaux, plus qu'aux États-Unis. Mm-hmm. Dans l'étude, il y a une partie sur la France et on montre que les jeunes, par exemple, les jeunes françaises sont celles qui sont le plus touchées par des effets délétères d'Instagram sur leur santé mentale, c'est-à-dire qu'elles se sentent complexées.
Bien
On voit aussi, et ça c'est dramatique pour Instagram, dans ces études pas publiées par Facebook, que les filtres, mais sans s'en douter, sont dramatiques. C'est-à-dire que ça crée des phénomènes de complexe chez les jeunes femmes notamment. Les filtres sont absolument dramatiques et ça, Instagram le sait. Voilà.
Oui, parce qu'ils ont mené des études là-dessus et ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils n'aient pas communiqué ouvertement là-dessus en disant écoutez, on est conscient des problèmes, on va essayer d'y remédier.
Et ça va être très compliqué parce que là, en plus, l'histoire, c'est que le Wall Street Journal a eu toutes ces informations via une lanceuse d'alerte, je crois, en l'occurrence, qui va être entendue par le Sénat la semaine prochaine, le Sénat américain, et qui donne une grande interview à un grand média, à CBS, je crois, un grand média américain,
pour
une grande émission. Donc, enfin. Là,
on
n'a
pas
quand
fini
même...
de parler de cette histoire.
C'est un peu chaud pour eux. Ouais.
Moi, je me demande si, et d'ailleurs, ça a déjà été abordé, cette comparaison, le fait d'être aussi nocif et de cacher ces informations, ça fait quand même penser à Big Tobacco, à ce qui s'est passé dans les années
70,
sur le tabac. Et en fait, Facebook, maintenant, est de plus en plus comparé à Philip Morris, par exemple. C'est-à-dire que c'est la grande boîte qui est nocive, alors dans un domaine évidemment très différent, mais à la santé mentale, physique.
Cacher des
ou parfois physique d'ailleurs, il y a des cas de suicide.
Après, c'est tout le lobbying, on va dire, de l'agroalimentaire, hein, les Coca-Cola, tous
oui,
ces trucs-là
mais,
aussi.
Mais,
de
mais
la
le
même
fait
manière,
de cacher ces études, alors évidemment, dans l'industrie agroalimentaire aussi, mais c'est vrai que l'importance que va prendre Facebook et le fait de cibler Facebook autant dans les prochains mois, prochaines années, ça fait penser un peu à ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac à la fin du XXe siècle.
Ouais, effrayant tout ça. Et puis tu le disais, Anthony, parallèlement, la montée en puissance de TikTok a dépassé le milliard de vidéos vues, je crois.
Non, milliard d'utilisateurs,
on est compte.
Ce qui est fou. Enfin, en plus, la tendance est folle, parce qu'en 2018, ils étaient à moins de 100 millions de personnes.
Là, et ils vont, en fait, petit à petit, étouffer Instagram, sans doute. Parce qu'on voit que Snapchat, on en parle moins aussi.
On en parle moins, c'est
TikTok qui est en train de tirer son épingle du jeu. C'est
Instagram et YouTube, même si YouTube, c'est un usage un petit peu différent. Mais pour les jeunes, en termes d'utilisation, c'est vraiment les trois poids lourds, même si TikTok, il leur manque encore la monétisation.
Enfin, c'est encore, ce qui n'est pas négligeable.
Ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, quand t'as le milliard, après la monétisation, elle vient.
Mais tous ces problèmes, on va dire, de mal-être qu'on peut retrouver sur Instagram, je pense qu'on peut aussi en trouver sur TikTok. Hein.
Bah,
c'est un autre débat.
Je veux dire,
bien sûr.
Enfin, voilà,
là, il se trouve
tous les travers qu'on retrouve sur Insta, on les retrouve aussi sur TikTok.
Il se trouve qu'on a les infos sur Insta, on a encore les infos sur TikTok.
Parce que là,
il y aura sûrement des.
On focus sur Insta, mais Snapchat, TikTok, pareil. Hein.
passionnant tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Super, super actu cette semaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié tous ces échanges avec à la fois Anthony Morel et Raphaël Grabli. Merci à tous les deux.
Merci François, merci à tous. Merci,
petite précision avant de poursuivre de quoi je me mêle. Hein, je vous rappelle que aussi, si vous êtes un fan de techno, n'hésitez pas à retrouver Tech & Co tous les soirs que j'ai le plaisir de présenter. 2 heures de tech tous les jours. Alors, bien sûr, en direct à la radio, à la télé sur BFM Business, mais aussi en podcast. Donc, si vous n'avez pas toute votre dose de tech avec de quoi je me mêle, je vous propose aussi de nous retrouver tout au long de la semaine. Dans un instant, on s'intéresse à Amazon. Voilà, les nouveautés Amazon qui ont été présentées cette semaine avec le porte-parole d'Amazon France qui me rejoint sur ce plateau, Philippe Dalli. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie de quoi je me mêle, vous le savez, sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01net.com et le week-end donc sur BFM Business à la radio, à la télé. On va évoquer maintenant les nouveautés Amazon. On en a parlé tout à l'heure, c'était en apéritif avec Anthony et Raphaël. On va rentrer dans le vif du sujet avec mon invité Philippe Dalli. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Et merci d'être sur le plateau de quoi je me mêle. On s'était parlé il y a un an pile. Je regardais un petit peu les archives. Vous étiez sur le plateau, le septembre 2020. On sortait d'une période un peu compliquée, hein, confinement. On ne savait pas encore qu'on allait repartir dans des moments un peu compliqués. C'est intéressant de voir justement comment Alexa avait un petit peu bouleversé notre quotidien pendant ce confinement. Là, on est sur un autre sujet. Hein, c'est toutes les nouveautés hardware que Amazon a annoncées il y a quelques jours de cela. Une keynote très intéressante. Avec beaucoup de produits, on voit qu'Amazon investit dans le hardware de manière impressionnante. Amazon, c'est l'e-commerce, c'est le cloud, c'est la vidéo, les séries, les télés, le foot maintenant, mais aussi toute une partie hardware. Vous êtes le papa d'Alexa, France en tout cas, et c'est à ce titre qu'on vous reçoit. Philippe, en quelques mots pour débuter, qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant cette keynote Amazon? Quel est le produit qui vous a le plus intéressé, qui est peut-être le plus représentatif de ce qu'aujourd'hui est Amazon dans le monde du hardware?
Il y a beaucoup de choses qu'on a annoncées. On est extrêmement chanceux d'avoir un florilège aussi large de services et d'appareils. C'est en France, il n'y a pas moins de 5 annonces. Et encore, on a lancé 10 différents produits depuis un an. Parmi les annonces qui ont vraiment été notables, il y a le robot. Il y a Astro,
oui.
Ça c'est une certitude, c'est une vraie rupture, c'est une vraie innovation, c'est notre premier robot. Donc on est particulièrement fiers de ce que ça va pouvoir apporter aux clients. Derrière, il y a d'autres innovations, on parle du Echo Show 15,
oui.
Donc le Echo Show 15,
qui
c'est un très
lui
grand écran.
Sortira en France.
Absolument.
Voilà.
Il sort en France.
Rappelons ce que c'est, hein. c'est un tableau,
c'est un
interactif
tableau.
En quelque sorte, un tableau tactile, hein, avec un écran tactile.
La fonction première de cet Echo Show 15, la façon dont on l'a conçu, c'est d'être finalement le centre de la cuisine. Combien de fois les parents se sont posés la question de savoir comment jongler avec des problématiques d'agenda, avec savoir ce qu'ils allaient préparer le soir, ou encore de simplement se passer des pense-bêtes pour ne pas oublier d'aller chercher les enfants à l'école. Donc l'Echo Show 15, il a cette fonction-là, de se trouver sa place finalement dans la cuisine ou tout autre endroit où les clients le positionneront, en portrait ou en paysage. Et il vient aussi avec une innovation, c'est l'identification faciale. À savoir que vous allez pouvoir créer votre profil et retrouver toute une série de widgets que vous allez pouvoir personnaliser et qui, selon vos préférences, vont afficher les informations dont vous avez besoin.
C'est un super Echo Show qu'on accroche au mur avec un grand écran et ce système de reconnaissance faciale qui est très intéressant. Philippe, on va aussi détailler d'autres produits, mais j'aimerais qu'on revienne sur Astro parce que l'actualité n'est pas forcément très tendre envers Amazon puisque en fait il y a eu des leakers qui ont divulgué en fait des réunions privées qui a lieu au sein d'Amazon concernant justement la conception de cet Astro, et c'est pas joli.
en termes de sécurité de données, en termes de fiabilité de ce robot qui serait pas forcément très au point. Enfin, des développeurs, en gros, hein, si j'ai bien compris, mais vous, je pense que vous avez aussi l'info, des développeurs qui ont travaillé sur ce robot, eh bien, le fusillent, en quelque sorte, en disant que c'est pas un produit qui est au point, c'est une catastrophe en termes de vie privée. C'est un pavé dans la mare, non ? Alors que ce produit vient d'être lancé.
Alors, on a évidemment eu accès à cet article.
Vice qui l'a annoncé. Bon, c'est un média sérieux, hein, quand même. Hein.
Et on réfute. On réfute totalement, notamment sur les questions de qualité et de sécurité. C'est un appareil, comme tous les appareils, que ce soit ceux de la gamme Echo et puis maintenant avec Astro, qui ont subi des dizaines de milliers d'heures de tests. Et en plus, c'est des appareils qui ont été dans les mains de personnes qui l'ont testé. Donc on est confiant dans le fait d'avoir aujourd'hui annoncé un produit qui répond à ces critères d'évaluation qui sont des critères hyper stricts, oui. Tant sur la qualité que la sécurité, que sur la confidentialité. Donc pour revenir sur le point de la confidentialité que vous évoquiez, il y a la partie physique et la partie, on va dire, digitale. La partie physique, c'est comme pour les appareils de la gamme Echo, la possibilité d'éteindre électroniquement l'appareil, donc il n'écoute rien. C'est la possibilité d'obturer la caméra, donc la caméra n'enregistre rien. Et c'est toujours cette même logique de mot d'activation qui est personnalisable. Et Alexa n'écoute pas tant que ce mot n'est pas activé. Mmh. L'autre partie qui est plus côté, on va dire, software, c'est de donner la possibilité aux clients de paramétrer finalement leur niveau de confidentialité. Donc, de faire en sorte qu'Alexa n'enregistre rien ou de prévoir que tout soit effacé à intervalle de 3 à 18 mois et également de lui demander ce qu'elle a écouté. Très bientôt, les clients vont pouvoir demander directement à Alexa de les aider à paramétrer ce niveau de confidentialité. Et enfin, c'est d'envoyer à intervalles également réguliers des emails, des communications pour rappeler aux clients qu'ils ont le contrôle sur leur niveau de confidentialité et qu'on a différents éléments pour leur permettre finalement d'y parvenir.
Donc vous réfutez toutes ces informations, malgré tout, bon, visiblement c'est un document confidentiel qui a fuité, alors voilà, ce seraient des personnes qui ont travaillé sur ce robot qui disent, en plus c'est pas au point, Astro est terrible et se jettera presque certainement dans un escalier si l'occasion se présente, alors que dans la vidéo que vous nous présentez, on voit qu'il détecte les escaliers parce qu'il a des espèces de radars qui font qu'il sait que s'il y va, il va se casser la figure, etc. Que l'antenne télescopique parfois tombe en panne, elle n'arrive plus à se rétracter, donc à ce moment-là, pour le réenvoyer, ça rentre pas dans un emballage. Enfin, est-ce que ce produit, visiblement, est au point, à votre avis ?
Oui, il est au point. Il est au point pour toutes les raisons que j'ai données auparavant, à savoir que c'est un produit qui a nécessité plusieurs années, 4 années de développement, très strict, avec des challenges énormes. Enfin, c'est le produit le plus complexe qu'on lance aujourd'hui, avec des logiques de technologie robotique, des capteurs, de machine learning. La spatialisation, c'est finalement le plus gros enjeu, à savoir comment est-ce qu'on a fait en sorte que Astro puisse éviter les obstacles. Et effectivement, quand il se présentera en face d'un escalier, aujourd'hui, il ne sait pas monter un escalier ou il ne sait pas descendre un escalier.
Mais c'est vrai, Philippe, le plus gros enjeu, ça va être en fait la vie privée, hein, avec ce type d'appareil. Parce que bon, que de temps en temps, ils se prennent un mur ou une tête de lit, c'est pas très grave. Mais en revanche, il va falloir que vous soyez irréprochable sur, on va dire, la vie privée et la sécurité des données, parce que ce petit robot peut être considéré comme un... pas un espion, mais disons un témoin de ce qu'on fait dans la vie, parce qu'il va nous suivre. C'est ça aussi l'objectif. Alors, on est d'accord.
Il va vous suivre si vous le décidez. Oui. Il va accéder aux chambres ou aux pièces dans la maison que vous allez auquel vous allez lui permettre d'accéder.
Il faudra lui autoriser de rentrer, par exemple, dans
Absolument.
Telle ou telle pièce.
D'accord. Si vous ne souhaitez pas qu'il aille dans votre chambre ou dans votre salle de bain, il n'ira pas. Si vous souhaitez changer ça, libre au client de décider.
Astro, donc, disponible pour l'instant qu'aux US, hein, en précommande, $1000.
Tout à fait.
Pas prévu pour l'instant en France.
Pas d'annonce à ce sujet-là.
D'accord, on verra bien. Autre produit qui sort, donc on a parlé de l'Echo Show 15. Quelles sont les nouveautés aussi qui vont bientôt arriver en France?
Alors, ce qui arrive en France, c'est le Hero Pro 6. Donc Hero Pro 6, c'est du Wi-Fi Mesh Wi-Fi 6, donc avec une couverture de 190 mètres carrés, ce qui est largement suffisant pour permettre d'avoir un Wi-Fi
puissant. Un extender Wi-Fi pour avoir du bon Wi-Fi partout.
Exactement.
C'est un produit qui est sorti l'année dernière hein, aux US et qui sort maintenant en France.
Non, il vient d'être annoncé pour l'intégralité.
Ah oui, alors c'est peut-être une nouvelle version, parce qu'il y avait déjà une version aux US.
Il y avait le Hero Pro 5.
D'accord. Donc celui-ci est Wi-Fi 6, donc plus performant, on va dire. Hein, c'est
et
ça.
Il vient avec un hub Zigbee. Donc ça vous permet très rapidement de pouvoir étendre finalement la couverture à tous vos produits connectés. D'accord. Qui sont compatibles Zigbee.
Il est compatible avec la nouvelle norme que les géants de l'Internet sont en train de mettre en place, hein, crois. Hein, ouais, entre Apple, Amazon, Google, etc. Vous savez, c'est ce standard de communication des objets connectés. C'est
Matter.
Matter, voilà.
Tout à fait.
Très intéressant.
Autre produit qui arrive en France, c'est la première sonnette vidéo de la gamme Blink. La Blink Vidéo Doorbell. Donc la Blink Vidéo Doorbell, on la voit à l'écran. Elle se positionne dans un appartement ou sur une porte d'appartement ou sur une porte de maison. Elle donne la possibilité d'interagir avec de l'audio, de la vidéo. Et elle vient également avec deux accessoires pour toute la gamme Vidéo Doorbell de Blink, à savoir accessoires avec projecteur ou panneau solaire.
D'accord. Ça, disponible en France ?
Ça, ce sera disponible en France également. Il suffit de vous enregistrer, vous serez notifié quand le produit sera disponible. Et ça vient à un prix super attractif qui est à 59,99€. Et pour les deux accessoires, on est à 39,99€ chacun.
D'accord. L'idée, c'est qu'on mette ça devant sa porte d'entrée, qu'on soit en maison individuelle ou même en appartement. Ça a
Absolument.
Du sens aussi en appart ?
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que le maillage finalement entre les différents produits qu'on a conçus devient de plus en plus fort. À savoir que la vidéo va pouvoir s'incruster sur l'écran de votre Echo Show. Et vous allez pouvoir consulter
cette vidéo
ou sur le smartphone, parce qu'il y a une application qui vient et qui s'appelle Blink Home Control, que vous pouvez utiliser à distance.
Et ça marche avec le Wi-Fi de la maison ?
Tout à fait.
Il faut se connecter au Wi-Fi.
Oui.
D'accord.
Typiquement, si vous utilisez votre Echo Show connecté au Wi-Fi, c'est par le Wi-Fi que vous allez recevoir le flux vidéo de votre vidéo doorbell.
D'accord. Donc il faut malgré tout que cet appareil, cette petite sonnette visuelle, soit à portée du Wi-Fi. Si on est par exemple dans une maison individuelle et que la porte d'entrée, enfin vous savez, ou la porte du garage est un peu loin, il faut malgré tout qu'on ait du réseau, quoi.
Ou alors vous pouvez l'utiliser directement avec votre smartphone. Donc ça marche aussi avec le
smartphone. Ça marche aussi avec le smartphone.
Tout à fait.
D'autres produits annoncés, Philippe ?
Alors, d'autres produits, oui, il y a effectivement côté Ring, un produit qui est assez intéressant côté sécurité, qui permet et qui va, c'est une nouvelle, un nouveau panneau de sécurité, qui permet d'avoir non seulement du Wi-Fi via le Hero,
oui.
Donc la technologie Hero, mais également la possibilité de paramétrer tous vos sujets au titre de la partie sécurité.
D'accord, très bien.
Les autres points qui sont assez intéressants, oui. C'est tout ce qu'on a annoncé finalement cette dernière année. Donc il y a eu pas moins de 10 nouveaux appareils, dont 3 dans la gamme Echo Show, et puis des innovations notamment sur des services. Donc par service, c'est tout ce qu'on a pu ajouter dans notre sélection pour les Fire TV, à savoir des produits qui étaient importants et des services qui étaient importants pour les Français. Donc,
Fire TV, les petits boîtiers, vous savez, qui vous permettent de vous connecter, en fait, de rendre votre télé connectée, en quelque sorte, avec l'univers Amazon.
Du MyCanal, on a du OCS.
C'était très attendu, hein, MyCanal, c'est bien, c'est arrivé.
Ouais. Et puis ça vient en complément de ce qu'on a déjà, à savoir du Netflix ou des produits comme Prime Video. On a aussi lancé très récemment, et c'est exclusif en France, la possibilité de demander à Alexa où trouver un centre de vaccination.
Je dis à Alexa, dis-moi où est le centre de vaccination le plus proche. Et
elle va pouvoir vous renseigner.
D'accord. Ça, c'est typiquement un développement français.
Oui.
On a ça n'existe que chez nous.
Premier pays à le lancer. Tiens. Parce qu'on pensait que c'était tout à fait opportun, que c'était opportun dans le sens que ça apportait vraiment un service aux clients, que c'était demandé. Donc on travaille aussi sur la base de ce qu'on observe et de la part des clients. Donc on a développé cette fonctionnalité d'abord pour la France. D'autres annonces, la traduction instantanée. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Et puis, on a lancé aussi des formats plus longs. Où vous aviez l'habitude de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les flash briefings, qui viennent de différents médias, qui sont des formats courts. Aujourd'hui, on introduit cette logique d'accès à des contenus beaucoup plus longs.
Donc des podcasts, par exemple.
Il y a des podcasts, mais il y a aussi cette production dédiée à ces formats plus longs par des Europe 1 ou des France Info.
Europe 1, France Info, bon... Vous n'avez pas des médias de chez nous, non, pour nous faire plaisir?
On adorerait.
Ça va arriver.
On adorerait.
Philippe Dalli, merci pour toutes ces précisions. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez revoir la keynote avec tous les produits. Hein, c'est assez intéressant, notamment des produits qui ne sont pas encore annoncés en France, comme le Glow, qui est un appareil assez intéressant, qui projette en fait une image sur, par exemple, votre table, et sur laquelle on peut interagir en 3D. C'est assez intéressant, avec en plus un retour visio, hein, un produit qui, on a l'impression, est né en quelque sorte pendant le confinement, hein, et qui a été sans doute très vite développé, hein.
Vite conçu.
Ouais. Voilà.
Vite conçu, assez intéressant parce qu'il mêle le fait qu'on ait des usages qui se développent autour de la vidéo, des appels vidéo, rester en contact avec ses proches, et puis le côté ludique avec cette espèce de tapis où les enfants vont pouvoir jouer à du memory ou du puzzle avec leurs grands-parents.
Et en espérant que ça sorte un jour en France tout cela. Merci beaucoup Philippe Dalli, le monsieur, le papa d'Alexa, version française, venu nous commenter donc ces nouveaux produits. Merci beaucoup.
Merci beaucoup François.
De quoi je me mêle est terminé. On sera là la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez aussi votre rendez-vous tech, je le disais tout à l'heure. Si vous êtes affamé de tech, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs sur BFM Business, 20h-22h pour Tech & Co. Tentez le coup et écoutez, dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr. À très vite et bon week-end.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.